Bonjour à toutes et à tous, il est quasiment 30 dans quelques secondes, donc ça me laisse l'occasion de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Très heureux de vous accueillir dans un mode un peu moitié travaux, puisque l'espace permanent de la Galerie Roca va réouvrir au public à partir du 11 décembre, 18h, donc vous êtes les bienvenus à l'occasion de son inauguration, donc c'est dans quelques semaines. Pour ce show, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le deuxième Café Débat de cette saison, sur le thème du sixième sens. Alors je tiens tout de suite à dire que pour les amateurs de surnaturel ou de paranormal, c'est pas vraiment le sujet que nous allons aborder, hein. Même si lorsque nous accueillons des jeunes publics, nous parlons des cinq sens. Alors quel est ce sixième sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, plein de questions que nous allons poser à Nicolas Forestier, qui est professeur des universités au LIBM, qui est le laboratoire interuniversitaire de biologie et de la motricité, donc Université de Savoie et plus précisément sur Technolac. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les entremises des sciences, je vous rappelle en quelques mots le concept. Nicolas, vous avez une demi-heure et pas plus, vous êtes en train de déborder de quelques secondes bien sûr, pour nous exposer justement ce sujet et de répondre à cette question du fameux sixième sens. Et nous garderons la demi-heure suivante pour pouvoir échanger, voire débattre avec vous, si vous êtes d'accord. Et voilà, je crois qu'il est 12h30. Nicolas, je vous laisse la parole et le micro surtout.
Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à la Galerie Eureka de nous permettre de venir exposer des problématiques qui sont dans nos laboratoires. Et c'est toujours un plaisir donc de pouvoir échanger avec du public. Donc en effet, la demande, puisque c'était une demande, c'était de parler du sixième sens, hein, avec un point d'interrogation qui signifie qu'il va falloir un petit peu éclairer tout ça. Et puis éclairer également ce concept de proprioception qui vous amuserez à faire des recherches sur Internet, hein, tapez proprioception définition, vous en avez 17 000, hein, proprioception utilisation, vous avez plus d'une centaine de milliers d'articles. Donc c'est quelque chose qui est assez flou, et pourtant vous allez voir que on peut présenter les choses de manière assez simple. Alors pourquoi est-ce que je suis ici devant vous? Jean-Yves l'a dit, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, c'est un laboratoire qui travaille sur l'humain, généralement plutôt l'humain sain, et puis on analyse la motricité humaine sous tous ses aspects. Ça va de la cellule, hein, donc les cellules musculaires, les myocytes, jusqu'au comportement, et je suis justement un de ceux avec une petite équipe qui travaillons sur la proprioception, donc ce sens assez particulier. Alors j'ai fait un plan qui au moins est clair, enfin j'espère. Hein. On va d'abord voir d'où ça vient, la proprioception, comment ça marche, à quoi ça sert, et puis et alors, en fait le et alors c'est qu'est-ce qu'il faut reprendre, hein, de quoi, quelles sont les informations clés qu'il faudrait que vous extrayiez de cette présentation. Alors tout de suite, je tiens à préciser que je ne suis pas rentré dans des détails neurophysiologiques, etc., parce qu'il y aurait beaucoup à dire. J'ai essayé d'avoir une présentation assez synthétique de la proprioception, mais ce sera l'objet de la deuxième partie. Si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail de certains processus nerveux, ce sera avec plaisir. Alors pourquoi d'abord la proprioception est quelque chose qui finalement intéresse, et merci à toutes et à tous d'être là, hein, c'est très sympa de parler devant du monde comme ça. Eh bien c'est que contrairement aux autres sens, pensez à la vision, la proprioception finalement ce sont pratiquement que des sensations inconscientes. Donc on n'en a pas conscience. Donc c'est plus difficile. Alors que quand on voit quelque chose, eh bien on a conscience de ce que l'on voit. Et puis deuxièmement, les capteurs à la base de ce sens ne sont pas observables. On ne peut pas les voir. Contrairement aux yeux, aux oreilles, au nez, à la langue, hein, qu'on peut voir. Donc c'est un sens qui finalement est assez mystérieux, assez discret. Alors, pour finalement répondre à la question de ce sixième sens, il va falloir repartir un petit peu du début. C'est comme tout, les recherches ou les sciences avancent pas à pas, donc il faut voir d'où ça vient, d'où on vient. Donc la proprioception, d'où ça vient. Alors vous le savez, parce que si vous avez lu le petit fascicule, je crois que c'était marqué dans le résumé peut-être de la chose, on va trouver les fondements de la proprioception chez un grand ancien, puisqu'il s'agit d'Aristote. Aristote, là aussi, vous êtes tous au courant, qui, dans deux traités, a décrit des sens communs, des sens propres à l'humain. Et en gros, il a dit, ben, chez l'homme, il y a cinq sens. Voilà. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. On ne parle pas de proprioception ici. Il s'est, malgré tout, posé la question de cette limitation. Est-ce qu'il y aurait un sixième sens ? Alors, c'est marrant qu'il se pose cette question parce que, finalement, il voulait une réflexion finie sans savoir ce qu'aurait pu être ce sixième sens. Et c'est assez rigolo de voir que dans l'avancée historique, eh bien, ouais, il y a bien un sixième sens. Mais il exclut la possibilité d'existence d'un sixième sens. Et puis, il faut attendre assez longtemps, 1826, plus précisément, pour qu'un physiologiste de l'époque, Charles Bell, émène cette idée de l'existence d'un sixième sens. Et plus précisément, lui, il va parler d'un sens musculaire. C'est ce sens musculaire qui, dans l'histoire, a été qualifié de sixième sens et qui va être repris par la suite. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il dit, Bell ? Il dit une chose, il dit que sans un sens de la condition des muscles, il est impossible de réguler leurs actions. Il dit qu'un muscle, bien sûr, il doit pouvoir être contracté par l'intermédiaire d'une commande motrice, mais il faut qu'en même temps, il y ait une commande nerveuse, régulatrice, afférente, pour contrôler l'action du muscle. Charles Bastian, ici, va pousser un petit peu plus loin cette réflexion qui ne concerne que les muscles, et qui finalement parle d'un mode de contrôle, proprioceptif en l'occurrence, mais qui est un mode de contrôle des réflexes très simples. Charles Bastian, il va inventer un autre mot que vous connaissez peut-être, la kinesthésie. La kinesthésie qui est le sens du mouvement. Et Bastian dit, il y a forcément des signaux qui émanent des muscles, mais ces signaux qui émanent des muscles ne sont pas là que pour réguler l'action des muscles, mais pour réguler, finalement, le mouvement volontaire. On est sur une intégration de plus haut niveau. Ces informations ne vont pas être que bouclées sur des réflexes de bas niveau, mais sur des processus de plus haut niveau. Alors bien sûr, là je parle de processus de plus haut niveau, etc., de réflexes. À cette époque-là, tout ça n'existe pas encore. On est vraiment dans des positions théoriques qui sont faiblement démontrées. On n'a toujours pas parlé de proprioception. Celui qui va parler de proprioception, c'est Sherrington. Sherrington, il est important, d'abord parce qu'il invente le terme de proprioception, il a inventé un autre terme au passage, le terme synapse. C'est lui qui a inventé ce terme. Et il met fin à un débat, c'est un gros débat, suite au positionnement de Bastian, qui est sur les centralistes et les périphéralistes. Est-ce que les signaux qui émanent des muscles sont dépendants, finalement, des signaux qui les signaux moteurs, ou est-ce que ce sont des signaux qui émanent de l'environnement ? Et lui, très clairement, il dit, ok, il y a un sens, on va l'appeler la proprioception. Cette proprioception, ce sont des signaux périphériques qui sont reliés par des capteurs. Point. Et, par contre, il démontre l'existence de boucles réflexes à la base de ces signaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de la proprioception, finalement ? Sherrington avait déjà pratiquement tout dit. C'est la perception des mouvements articulaires corporels ainsi que la position du corps ou des segments du corps dans l'espace. C'est grâce à la proprioception que je sais que si je mets mon bras gauche dans cette position, il y a quand même des petites subtilités qu'il faut prendre en compte. C'est bien la perception de la position et des mouvements du corps dans l'espace tridimensionnel, dont les performances sont déterminées à la fois par la qualité des signaux disponibles et par les capacités de traitement de ces signaux. Ça, c'est Anne et collaborateurs. Elle est importante, cette définition, parce que vous allez le voir, dans le domaine sensoriel, et surtout proprioceptif, il ne faut pas confondre quantité et qualité. C'est pas parce qu'il y a plus de signal proprioceptif que le cerveau va plus utiliser ces signaux. Et des fois, trop tue le trop. Bien. Alors, j'espère que j'ai été clair pour cette première partie. On va passer maintenant à comment ça marche. Qu'est-ce qui fait la proprioception? Sur quoi se base le système nerveux central pour effectuer justement ces contrôles positionnels, ces contrôles dynamiques? Alors en fait, c'est assez simple. Hein. Quand on bouge, on va déformer des structures molles. La peau, les muscles, des structures périarticulaires. Et en fait, tous ces tissus vont être innervés par des récepteurs mécaniquement sensibles. En fait, la proprioception, ça va être, c'est un signal synthétique. Il n'y a pas un capteur proprioceptif. Il y en a des millions. Et encore, je dis millions, je pourrais dire centaines de millions. On n'a pas, on ne trouve pas d'estimation du nombre de capteurs proprioceptifs, et notamment chez les mammifères. Hein, même sur les, on a des estimations sur des études cadavériques. En gros, tous les capteurs qui participent à la proprioception, ce sont des mécanorécepteurs. Ils sont sensibles aux déformations mécaniques de leur membrane nerveuse. Donc ici, par exemple, vous avez un corpuscule de Pacini, vous avez la fibre nerveuse, ici, qui est entourée par toujours une capsule déformable. Et lorsque je vais déformer cette capsule, je vais appuyer sur la fibre nerveuse et je vais provoquer l'apparition de potentiels d'action.
C'est pour ça que, quand on se tape la peau ou le visage, eh bien, on ressent.
Ce sont les déformations mécaniques. Tous les récepteurs sont sensibles à un stimulus. Alors, on les trouve où? Ben, on les trouve dans les structures qui bougent le plus. D'abord, la peau. La peau, c'est notre plus gros, en termes de surface, notre plus gros capteur proprioceptif. On va trouver des capteurs proprioceptifs au niveau de l'épiderme, du derme, etc., etc. Les articulations mobiles, bien sûr. Ces articulations mobiles, elles vont être stabilisées par des structures périarticulaires, des tendons, des ligaments, et on va trouver à l'intérieur des propriocepteurs. Et puis, bien sûr, les muscles. Les muscles avec deux propriocepteurs qui sont très intéressants, les fuseaux neuromusculaires, et les organes tendineux de Golgi. Fuseaux neuromusculaires, ce sont des propriocepteurs qui vont donner des informations sur la longueur instantanée d'un muscle et sur la vitesse d'allongement de ce muscle. Et puis les organes tendineux de Golgi qui sont placés au niveau de l'interface entre le tendon et le muscle vont donner des informations sur la contrainte appliqué sur le muscle, en tout cas sur cette composante. Donc finalement, on peut contrôler la force de sortie et on peut contrôler ici l'allongement d'un muscle. Est-ce qu'il y a une répartition homogène des propriocepteurs? Non, on va trouver des densités plus importantes dans des muscles ou sur des surfaces cutanées dont il faut absolument contrôler la position. Par exemple, on sait que la position de la tête dans la motricité humaine est très importante. Hein, amusez-vous à marcher sur une plage, la tête penchée, vous êtes sûr de partir du côté où la tête est penchée. Donc on va trouver beaucoup de propriocepteurs au niveau des territoires cutanés, des territoires musculaires, hein, des muscles qui soutiennent la tête, ou des muscles extra-orbitaires des yeux également, puisque la vision participe à la programmation motrice. Bien, toutes ces informations finalement intègrent le système nerveux par l'intermédiaire du segment médulaire, par la moelle épinière, et puis il y a des relais qui se font jusqu'à avoir une projection de ces informations sur le cortex somatosensoriel. Et vous le savez peut-être, au niveau du cortex somatosensoriel, il y a une représentation du corps qui est contrôlé par le cerveau. Notre corps physique est représenté à la surface du cortex. C'est ce qu'on appelle une représentation somatotopique. Plus le territoire somatotopique est grand, plus le nombre de cellules qui traitent les informations est important. Et vous voyez, par exemple, que le territoire de la face, de la main, représente une surface beaucoup plus importante que celle du pied et de la cheville. Ce qui veut dire que pour le système nerveux central, ce qui contrôle, c'est ça. C'est pas un corps comme vous voyez, vous et moi, devant la glace. C'est ça. C'est un homoculus, des grandes mains, une grande bouche. Et ça représente le niveau de contrôle proprioceptif qui est opéré sur le système contrôlé. Dites-vous bien une chose, hein, c'est que le système nerveux central, c'est un autiste qui considère notre propre corps comme étant à l'extérieur de lui-même. Hein, ça c'est, il faut bien l'avoir. Alors, bon, ça c'est ce qu'on va trouver dans les bouquins de neurophysiologie de première année, hein, de universitaire, voire même dans les bouquins de neurophysiologie tout court. Attention, ça c'est quand même une vision un peu romantique, hein, de la réalité. La réalité est plus complexe. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une vision romantique, hein, c'est quand vous pensez prendre un bain avec votre compagnon ou compagne, et puis ça c'est ce que vous pensez, et puis ça c'est la réalité. Hein. Donc la réalité du traitement sensorimoteur, il est beaucoup plus complexe, et on sait maintenant depuis les années 2000 que certes, il y a bien des entrées sensorielles proprioceptives en bleu, mais que ces entrées sensorielles vont interagir avec des copies des commandes motrices qui sont envoyées. Autrement dit, je perçois uniquement les informations dont j'ai besoin pour contrôler le mouvement que je vais faire. Ce sont des modèles prédictifs, et donc c'est plus complexe que ce que je viens de vous montrer, mais gardons l'idée, de toute façon, de ces entrées proprioceptives qui vont être traitées par le système nerveux central. Bon, à quoi ça sert? J'ai entendu, d'ailleurs, mesdames, je crois que je vous ai entendu avant le début de la présentation, vous dites oui, mais ça sert à ça aussi, etc., etc. Alors, j'allais dire que ça sert à beaucoup de choses. On va se centrer sur les deux grandes fonctions de la proprioception. Rappelons-nous, une multitude de capteurs qui envoient des informations à différentes vitesses, hein, bon, voilà, au système nerveux central. Les informations intègrent le système nerveux central par des segments médullaires au niveau de la moelle épinière, bon, et du tronc cérébral également pour ce qui est situé au niveau du crâne. Ces informations vont effectuer des boucles réflexes pour contrôler la motricité. Quand vous marchez sur un chemin de montagne et que vous marchez sur un tout petit caillou, votre pied va bouger. Ce mouvement, qui va être détecté par les propriocepteurs, va donner naissance à une modulation réflexe de votre pas. Ça, c'est complètement inconscient. Hein? Heureusement, parce que sinon, on ne bougerait plus. Hein? On serait tout le temps en train de contrôler. Donc, il y a toute une part de la motricité réflexe qui est contrôlée par cette proprioception. Et puis, vous voyez que ces mêmes signaux, finalement, peuvent intégrer des structures qui sont placées plus haut que la moelle épinière. Je pense notamment au tronc cérébral, au cervelet, au cortex pariétal postérieur, on a vu, mais d'autres structures. Et là, il y a tout un tas de traitements qui vont permettre, finalement, d'avoir un contrôle volontaire de la motricité. Ce contrôle volontaire, il se base sur l'existence d'un référentiel égocentré. La proprioception, ça sert surtout à construire notre schéma corporel. Et notre schéma corporel, notre représentation physique, on est capable de la projeter dans un environnement externe. Ok ? S'il n'y a pas ce schéma corporel, ce référentiel égocentré, alors les mouvements que je vais faire, qu'on appelle des mouvements, ben, ce sont généralement des mouvements de saisie, hein, quand on va prendre des choses comme ça, il y aura des erreurs d'exécution. Pour la petite histoire, hein, des pathologies comme par exemple l'anorexie mentale jouent négativement sur ce référentiel égocentré. C'est pour ça que les gens qui souffrent d'anorexie mentale, généralement, ne se voient pas tels qu'ils sont, puisque leur cerveau leur ment. Ce référentiel égocentré n'est pas à jour. Et il y a un laboratoire qui travaille là-dessus, le LIP PC2S à Chambly. Donc ça, c'est la première chose. Proprioception, contrôle des actions motrices. Contrôle réflexe, contrôle volontaire. Autre chose, la proprioception, c'est également une entrée sensorielle qui participe à l'élaboration de sensations conscientes. Là, vous êtes tous, presque tous assis. Si vous fermez les yeux et que vous vous interrogez, comment est-ce que je suis assis, vous aurez accès à ce schéma corporel. Vous savez exactement comment vous êtes. Vous pouvez décrire, vous pouvez vous dessiner. Ça veut dire que l'intégration à plus haut niveau des informations proprioceptives va donner naissance à différents sens. Le sens de la position. Le sens de la position tridimensionnelle des membres et des segments dans l'espace. La kinesthésie. Je suis capable de décrire, de reproduire un mouvement par son amplitude, sa direction, etc. Le sens de l'effort, par les capteurs proprioceptifs, notamment fusoriaux et les organes tendineux de Golgi. Il y a un sens qui est rigolo, c'est le sens du poids. En fait, il s'appelait le sens de pesée propre de la main. Si je prends... Alors, Bastian était fasciné par ce sens. Et puis, il y a également des entrées proprioceptives qui permettent d'avoir accès à des informations d'épuisement musculaire et à des informations de douleur. On peut prendre conscience de ces sensations, ou on peut ne pas en avoir conscience. Ça, on fait ce qu'on veut avec. Si on a besoin, si vous cherchez à un moment donné quelque chose sous un meuble et que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas regarder, là, vous allez prendre conscience de comment sont vos segments. Là, vous allez utiliser majoritairement la proprioception. Alors, est-ce que, finalement, est-ce que c'est important la proprioception pour l'humain? Alors, avant de voir l'humain, on va déjà voir la souris. Ici, ce que vous voyez, c'est une souris, il y a des marqueurs, alors elle va avancer sur une échelle, et puis il y a des marqueurs sur son membre inférieur. Donc c'est une échelle, vous voyez l'échelle ici qui est prise de dessous. Donc là voilà qui avance, ça c'est une souris avec une proprioception intacte. Elle dispose de l'ensemble des entrées proprioceptives que j'ai décrites précisément. Et puis on a pris la même espèce et on l'a transformée. En fait, on a transformé cette souris, ce qui a permis de dégrader uniquement les informations proprioceptives musculaires. Donc deux entrées proprioceptives. Résultat des courses. Elle n'arrive plus à marcher. Elle a toujours de la proprioception cutanée. Elle a toujours tout ça. Mais la motricité est complètement dégradée. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec une personne qui est maintenant disparue. Ils sont tous morts là. J'avais pas pensé. Une personne qui a souffert d'une maladie auto-immune qui a complètement dégradé sa proprioception musculaire et cutanée, etc. Les gaines de myéline, les gaines nerveuses ont disparu. C'est un syndrome de Guillain-Barré très particulier. Et là, ce que vous voyez, c'est simplement un petit test. C'était au laboratoire à Québec. On va demander à cette personne, on va positionner le bras de cette personne dans une position. Voilà, donc c'est Jacques Paillard qui était neurophysiologiste. Il positionne et puis il lui demande, bah, mettez votre autre bras dans la même position. Plus de proprioception, plus de perception tridimensionnelle du mouvement. Et puis là, vous la voyez, elle est debout, elle ne tenait pas debout, mais dès qu'elle va fermer les yeux, voilà. Donc la proprioception, ouais, c'est essentiel pour la motricité. Alors il existe malgré tout une dégradation naturelle de la proprioception. On va trouver ça notamment avec l'âge, avec des neuropathies périphériques. La proprioception, notamment de la cheville, diminue, une dégradation finalement normale avec le vieillissement. Vieillir, c'est pas une maladie, c'est normal, mais il y a des choses qui disparaissent et c'est très en lien avec la chute. Donc il y a pas mal de recherches qui sont faites sur comment est-ce qu'on peut améliorer la proprioception chez les personnes âgées. Et puis, on l'avait montré il y a une vingtaine d'années, c'était plus sur le versant sportif, une fatigue musculaire, lorsqu'on fatigue les muscles, eh bien, on va avoir des retours sensoriels perturbés. Et donc, retour sensoriel perturbé, ça veut dire augmentation du risque traumatique. Donc là aussi, c'était pour développer des systèmes qui permettent de maintenir un niveau de proprioception constant. Ok. On va maintenant aborder deux points qui sont plus en lien avec ce que l'on fait actuellement au laboratoire. Ce qui est intéressant avec la proprioception et avec les sens de manière générale, c'est que notre sensibilité est modulable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, par exemple, si je suis debout devant vous et on me dit simplement « tiens-toi debout devant la salle », je vais utiliser beaucoup la vision. On est des êtres visio-dépendants, bien que je ne sais pas à combien j'utilise ma proprioception. Mais par contre, si je ferme les yeux, alors la proprioception va être préférée par le système nerveux central. En fait, le système nerveux central va toujours sélectionner des entrées sensorielles qui sont pertinentes par rapport à la tâche. Et vous ne ferez pas l'expérimentation, mais vous tenir debout dans le noir absolu, les yeux ouverts et les yeux fermés, alors qu'on ne voit rien, eh ben, c'est pas la même chose. Il y a des conséquences posturales. Donc là, s'il y a une absence d'une source d'information, le système nerveux switch pour aller chercher d'autres sources d'information. C'est pareil lorsque, je crois que celle-là, il faut que je la démarre. Lorsque dans une situation, ici vous avez le point de positionnement du regard, c'est quelqu'un donc qui joue au foot, et on voit que la vision est dévolue, finalement, eh bien, au traitement de l'action de jeu. Donc j'utilise plus la vision pour pouvoir me maintenir debout. Donc là, j'utilise majoritairement la proprioception. Donc ces modulations, vous inquiétez pas. Il y a deux choses importantes, et encore, je ne vais même pas les expliquer. Ces modulations, finalement, c'est ce que l'on appelle des repondérations intersensorielles. Et la proprioception y participe, comme tous les autres sens. Elle peut être minorée ou majorée. Ici, c'est quoi? Simplement pour vous. Vous avez un modèle, ce qu'on appelle un modèle en pendule inversée, c'est-à-dire, quand je suis debout, j'oscille toujours majoritairement dans l'axe antéro-postérieur. Eh bien, ces oscillations sont contrôlées à la fois par le système visuel, le système proprioceptif et le système graviceptif, l'oreille interne. Si, pour une manière ou une autre, ces systèmes, un des systèmes est altéré, les autres vont prendre une place plus importante. Il y a donc des modérateurs d'entrée sensorielle. Tout ça pour toujours avoir un contrôle optimal qu'on estime à 1. Bien. Ça, c'est la repondération intersensorielle. Elle a été étudiée et utilisée. Par exemple, on peut utiliser la langue des personnes aveugles pour projeter des images, parce que les capteurs de la langue sont assez fins pour pouvoir se représenter les images. C'est Barry Rita qui avait fait ça dans les années 2000. Donc on se sert de cette repondération intersensorielle. Nous, ce qui nous intéresse au laboratoire depuis quelques années maintenant, 5-6 ans, c'est que la proprioception permet d'observer un autre phénomène qui est la repondération intrasensorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans certaines conditions, je vais utiliser des sources proprioceptives, des localisations proprioceptives majoritaires, et que si la condition est modifiée, eh bien le système nerveux central va utiliser d'autres entrées proprioceptives. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un autre signal sensoriel, c'est une autre entrée proprioceptive. Regardez, je me tiens debout devant vous sur un sol stable. Eh bien, majoritairement, les entrées proprioceptives qui vont permettre de... Bien sûr, les yeux fermés. Les entrées proprioceptives qui vont permettre de me stabiliser, ce sont les entrées proprioceptives de l'ensemble des propriocepteurs qui sont situés autour de la cheville. Si maintenant, je me mets sur un sol instable, sur un coussin, sur une mousse, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que ces entrées proprioceptives qui sont dépendantes des mouvements un petit peu parasites du pied ne vont plus être prises en compte par le système nerveux central de manière aussi importante. Et on observe, finalement, des entrées sensorielles majoritaires pour le contrôle de la posture qui vont être au niveau des hanches. Si je vous la fais en exagérant beaucoup, sur sol stable, j'oscille autour de mes chevilles, j'ai une stratégie de cheville. Sur un sol instable, j'oscille autour de mon bassin. Stratégie de hanche. Et par un calcul, par des conditions particulières et un calcul particulier, on peut même quantifier la part des entrées proprioceptives qui rentrent au niveau de cette interface, l'interface cheville, qui est très très importante pour notre contrôle. Bien. On est plusieurs aujourd'hui dans la salle. Est-ce que finalement, là je vous ai expliqué quelques généralités sur la proprioception, est-ce qu'on a tous la même proprioception? Alors je pense que vous pourriez déjà y répondre si je vous disais, est-ce qu'on a tous la même vision? Ben non. Ceux qui ont des lunettes, vous le savez. Est-ce qu'on a tous la même audition? Non, etc. Est-ce qu'on a tous les mêmes goûts? Bien sûr que non. Mais bizarrement, quand on pose la question de la proprioception, c'est ben ouais. Ben non. La vraie réponse, c'est non. Bien sûr que non. Hein. Comment on le sait? Bah d'abord, pour savoir ça, il faut mesurer la proprioception. Et on s'est rendu compte avec une de mes étudiantes de thèse, là, qui on en reparlera, je ne sais pas si elle est là, Thelma, non, qui va bientôt défendre sa thèse, que mesurer la proprioception, Il y a tellement de composantes proprioceptives que c'est assez compliqué. Il faut utiliser des tests de repositionnement divers et variés. Il faut utiliser des tests fonctionnels. Ça doit marcher, là. Des tests fonctionnels qui, finalement, expriment la façon dont les entrées proprioceptives contrôlent, en l'occurrence ici, le membre portant. Et puis, il faut utiliser ces fameux tests qui vont localiser la source d'entrée des informations proprioceptives. Et sur la base de ces tests-là, on s'est rendu compte que on avait des profils proprioceptifs très différents. Et si on regarde spécifiquement les stratégies de contrôle postural, vous savez, celles qui consistent à repondérer le signal en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Ici, en l'occurrence, sur un sol instable, on doit observer un shift, un déplacement des entrées proprioceptives de la cheville au niveau des hanches. On s'est posé la question avec un de mes anciens doctorants, qui est maintenant collègue au laboratoire, Brice Picot, en travaillant sur des populations de jeunes athlètes sains, saines. C'était des handballeuses, on a fait ça, c'était son travail de thèse. Pourquoi on a fait ça? Parce que d'abord, il n'y avait pas de données qui étaient faites sur des personnes saines. Et il n'y avait pas de données qui montraient éventuellement une différence individuelle sur ces processus de repondération. Alors bien sûr, on a montré que si on prend l'ensemble de la population, l'utilisation des informations de cheville diminue lorsque l'on passe d'un sol dur à un sol stable. D'un sol dur à un sol mou. Bon, ça, on est en accord avec toute la littérature. Très bien. Mais quand on regarde, finalement, les résultats individuels, on se rend compte que oui, certaines personnes arrivent bien à faire ce shift, arrivent bien à repondérer, mais tout un tas n'arrivent pas à repondérer. En fait, c'est deux tiers, un tiers. Et on a refait cette expérimentation, on l'avait fait ici à Chambéry, on l'avait refait à Brest. On tombe toujours à peu près sur les mêmes chiffres. Et de manière très intéressante, on a poussé ensuite et on s'est rendu compte que les personnes qui n'arrivaient pas à changer le mode de contrôle proprioceptif étaient celles qui présentaient le plus de risques traumatiques de rupture du ligament croisé antérieur. C'est-à-dire que ce mauvais contrôle, qui n'est pas observable à l'œil, conduit à l'apparition de risques traumatiques. Et c'était chez des jeunes sportifs de haut niveau, chez qui on a fait ça. Alors, ça nous a tout de suite intrigués. On s'est dit, si eux-là, ils sont à risque, est-ce qu'on peut les entraîner à opérer ces shifts proprioceptifs? Et puis, ça a été l'objet de la thèse de ma dernière doctorante, ici, voir si ces capacités de repondération étaient modulables et si on pouvait les entraîner. Et si oui, comment? Alors, on sait que, par exemple, chez les gens qui ont des problèmes de cheville, la littérature montre que, majoritairement, la réalisation d'exercices dits proprioceptifs, alors après, ça dépend tout des kinés, ça dépend des kinés chez qui vous allez, c'est comme tout, il y a des bons profs, des mauvais profs, il y a des bons kinés, des mauvais kinés, il n'y a pas de problème avec ça. Généralement, on peut réduire le risque d'incidence des entorses de la cheville avec des exercices proprioceptifs basés sur la déstabilisation. Et encore, il ne faut pas les faire n'importe comment. Est-ce que le processus de repondération est entraînable? Est-ce qu'on peut l'améliorer chez des personnes saines, mais qui présentent ces défauts de contrôle? Je vous invite à venir le 18 novembre sur le campus du Bourget du Lac. Non, mais la thèse sera mise, pareil, il y aura une capture, donc on pourra vous faire passer ça. C'est Thelma qui va préciser ça. Je peux vous dire que oui, ces capacités sont modulables, elles sont difficilement entraînables, ou en tout cas, on n'a toujours pas identifié la façon dont on pouvait vraiment les faire évoluer. Mais on cherche, avec des kinés d'ailleurs, à pouvoir trouver des environnements qui permettent d'améliorer cette fonction proprioceptive dite de repondération. On arrive au terme de cette présentation. Je suis bien. On arrive au terme de cette présentation. Donc, et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Plusieurs messages clés. Bon. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, mais je pense que pour la plupart vous le saviez, c'est que la proprioception, à l'instar d'autres sens plus abordables, comme la vision ou l'audition, est une composante essentielle du comportement adaptatif de l'humain. Voilà. On s'en rend jamais compte, bien sûr, si je bouge mon bras ici, j'ai des entrées proprioceptives, mais elles sont filtrées par le système nerveux central. Elles n'ont pas accès à ma conscience. Mais par contre, il suffit juste que je tape ça, là, je modifie mon mouvement. J'ai eu une entrée proprioceptive qui a été conscientisée. Donc c'est pas parce qu'on n'en a pas conscience que le contrôle proprioceptif n'existe pas. C'est un des contrôles les plus puissants qui existe, avec bien sûr la vision. La proprioception, c'est un sens qui structure notre posture. Alors là, on ne s'en rend vraiment jamais compte, mais faire ça, les yeux fermés, c'est de la proprio. Elle guide nos mouvements, parce qu'elle construit notre référentiel égocentré, et elle permet d'apprécier l'environnement dans lequel nous évoluons. Bien qu'étant commune à notre espèce, elle est néanmoins spécifique à chacun d'entre nous. Ça aussi, il faut bien le garder en tête. Si vous voulez savoir comment est fonctionnellement votre proprioception, mettez-vous sur une surface molle, un coussin, etc. Mettez-vous sur un pied, fermez les yeux, voyez combien de temps vous tenez. Faites des exercices avec toujours les yeux fermés, parce que la vision l'emporte généralement sur la proprioception. Mettez quelque chose sur la table, faites un tour les yeux fermés, vous essayez de le reprendre. Là, vous travaillez votre reconstruction, votre repère égocentré. Donc, il faut bien prendre en compte que c'est un sens qui n'est pas universel. Et enfin, puisqu'on avait commencé par le sixième sens, on va finir par ce fameux sixième sens. Alors, est-ce que c'est un sixième sens? En fait, j'ai trouvé, en préparant ce talk-là, j'ai trouvé une citation de quelqu'un qui est important dans la proprioception française, c'est Jean-Pierre Roll, qui travaille dans un laboratoire à Marseille, ex-Marseille Université, et qui est au CNRS, et qui a travaillé toute sa vie sur la proprioception, avec des modes de vibration pour envoyer des signaux proprioceptifs, etc. Et j'ai bien aimé cette citation qui, je pense, boucle bien la boucle. Finalement, plus qu'un sixième sens, la sensibilité proprioceptive pourrait être un sens premier, indispensable à l'émergence de la conscience de soi en tant qu'être capable d'action. C'est-à-dire que, la réponse est oui, c'est un sixième sens, mais c'est même plus qu'un sixième sens. On devrait peut-être la considérer comme quelque chose d'encore plus important, parce que elle se réfère à notre représentation interne. La vision, on voit ce qu'on est, notre corps externe. La proprioception, elle voit notre système de contrôle. Donc c'est encore plus puissant. Donc vous voyez que, Jean-Pierre Roll, il est toujours il est toujours vivant, lui. Donc, entre Aristote et Jean-Pierre Roll, la position aristotélicienne qui disait « il n'y a pas de sixième sens » et Jean-Pierre Roll qui dit « il y a plus qu'un sixième sens », l'histoire la boucle. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis, je crois qu'on a vu, ce document pourra être distribué sous forme de PDF. Il faudra voir avec la galerie Eureka. Et puis, il y a les différentes références qui ont servi à la construction. Merci beaucoup.
Merci Nicolas pour la clarté et la qualité de cette présentation. Donc, comme promis, la parole est à vous. J'ai le bâton de témoin, ça sera plus facile pour se comprendre. Donc, il nous reste encore bien 25 minutes pour pouvoir échanger, débattre sur ce sujet. Je sais pas que, sans perdre un instant, je passe le micro.
Bonjour, merci. Vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir au niveau de l'évolution entre la naissance et la fin de... Est-ce qu'on a assez une capacité qui évolue avec le temps? Et puis, deuxième petite question, l'influence ou pas de tout ce qui est maintenant portable? Est-ce qu'il y a il y a un lien? Merci.
Sur l'évolution, alors il est certain que entre la naissance et la mort, il y a une évolution, la proprioception. On va trouver la même évolution dans, par exemple, un processus comme
le temps de réaction. Les temps avec lesquels vous allez réagir à un événement particulier. Quand on est jeune enfant, à la naissance, finalement, on a une proprioception qui est très mauvaise. Parce qu'on n'a pas de construction de ce schéma corporel. Il se met en place petit à petit. Les propriocepteurs sont là, l'information est convoyée, mais les systèmes de traitement ne sont pas encore opérants. La maturation nerveuse ne se fera qu'avec la motricité. On est une espèce, on se construit avec la motricité. On a des mémoires sensorielles et motrices sur la base, on va construire cette motricité. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre. Hein, mais je peux vous dire qu'entre, par exemple, la naissance et l'âge de 3 ans, on a une proprioception qui est de très bas niveau. Alors on va avoir une proprioception cutanée, certes, mais pour reconstruire un mouvement, pour programmer des mouvements particuliers, ça c'est pas fait. Ouais. Et puis on va avoir une phase de stabilité. Alors d'un point de vue nerveux, on est stable entre 20 et 40 ans. Hein. Ça ne dure pas longtemps, hein, notre histoire. Hein. Non mais... Et à partir de 40 ans, il y a une dégradation de la proprioception. On l'a vu avec les neuropathies périphériques. Cette fois-ci, la dégradation, elle est due à deux phénomènes. La disparition progressive des mécanorécepteurs. Donc, moins de signal. Et puis, l'altération progressive des fonctions cognitives de traitement. Ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de rentrer juste... Si j'ai moins de signal qui rentre, quand je suis debout, par exemple, comment est-ce que je peux faire rentrer plus de signal ? Ben, en bougeant plus. Et on a cru longtemps que quand on observait le comportement postural de personnes âgées, ils étaient instables. En fait, c'est une stratégie de recherche de signaux proprioceptifs. Sauf que c'est une stratégie risquée. Parce qu'on se rapproche du moment où je tombe. Et ouais. Voilà. Donc j'ai pas. Après, pour les portables, je n'ai aucune idée. Je peux simplement vous dire que l'action des portables sur le système nerveux central a conduit, ça a été montré, sur une réorganisation des cartes corticales. On voit que la place du pouce sur ces est plus importante chez les jeunes que chez les gens qui utilisent peu leur portable. Bon, voilà, j'ai pas plus d'infos.
Merci pour votre exposé, très intéressant. Est-ce qu'une personne malvoyante améliore par adaptation de son handicap sa proprioception ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. On revient sur ces cartes corticales. J'ai l'habitude de dire que... Alors, vous voyez, hein, le cortex, c'est cette petite surface qui fait 6 mm qui recouvre les hémisphères cérébraux. Hein. Et les hémisphères cérébraux, vous avez vu, c'est plein de circonvolutions. Pourquoi ? Bah, parce qu'il faut tout faire passer dans la tête. Hein. Ce qui poserait des problèmes lors de l'accouchement, par exemple. Donc, il faut... Donc, tout ça pour dire que c'est un petit peu... Il y a un conflit de place. Et la plasticité du système nerveux central fait que lorsque une fonction n'est pas utilisée, eh bien, c'est une autre fonction qui va prendre la place. À l'instar de ce que l'on a vu avec la repondération intersensorielle. Il y a une repondération plastique. Si on entraîne, il y a des expérimentations qui ont montré que si on entraîne, alors c'est chez le singe, parce que l'expérimentation n'était pas super intéressante, pendant 6 mois des singes, à faire uniquement... des pointages avec ses deux doigts ou d'autres à faire avec tous les doigts et ensuite on regarde au niveau cortical, et bien chez les singes qui ont utilisé ces trois doigts, mais surtout ces deux doigts là, et bien la carte corticale est plus développée. Voilà. Après il n'y a pas d'expérimentation, en tout cas à ma connaissance, qui ont fait des cécités complètes chez le primate pour regarder un petit peu tout ça. Mais sans aucun doute, oui. Si l'espace n'est pas pris par la fonction, alors elle est prise par une autre fonction.
Merci pour la présentation. Moi, je m'interroge sur la représentation du corps dans l'espace à partir du moment où on ne touche plus le sol, par exemple chez des gymnastes, des plongeurs, et pourquoi pas des astronautes aussi. Est-ce qu'on inhibe complètement la proprioception ou est-ce qu'elle intervient quand même pour se situer dans le nombre de saltos, de vrilles qui sont réalisés ?
Alors, je vous invite à aller voir justement sur le site de Marseille, il y a des expérimentations qui ont été faites par Lionel Bringou. Il travaille en microgravité, donc simulé avec des, vous savez, les avions 0G là, et puis également dans des piscines pour faire ça. Et puis il y a Ludovic Marin qui lui travaille sur justement les mouvements rotatifs, etc. Dans ce cadre-là, il faut revenir à ce que l'on a dit sur les repondérations intersensorielles. Les informations autolytiques, celles de l'oreille interne, prennent le pas sur la proprioception. La vision est utilisée comme repère, vraiment cadre de référence, mais ce sont les otolithes qui prennent vraiment le pas. La proprioception est toujours là, mais elle est utilisée à un niveau moindre. Je ne sais pas si ça vous suffit comme, comme réponse. Dans les expérimentations 0G, je pense à une en particulier, la personne est debout et elle doit pointer des cibles. Donc, maîtriser sa posture en pointant des cibles, alors que l'avion est en pleine descente, donc il n'y a plus de, on est sans vecteur gravitaire. Eh bien, on voit bien que le maintien, finalement, des mouvements de pointage, ce mouvement des mouvements de pointage, finalement, est la preuve indirecte que la proprioception positionnelle est toujours utilisée. Hein? Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de shift, parce qu'il n'y a plus de vecteur gravitaire, on n'utilise plus la proprioception. En tout cas, on n'utilise plus, j'en ai pas parlé, mais une forme de proprioception qui est en lien vraiment avec le vecteur gravitaire, c'est la proprioception viscérale. Votre bol alimentaire, finalement, il dépend du vecteur gravitaire. Vous savez où vous êtes avec ça. Donc cette proprioception-là, oui, elle disparaît. Plus de vecteur gravitaire, plus de vecteur positionnel. Mais le reste est toujours utilisé.
Par rapport à une prise de poids brutale ou à l'inverse une perte de poids brutale, est-ce qu'elle peut provoquer, est-ce que ça peut provoquer en fait un décalage c'est soudain et provoquer donc au niveau des réflexes et notamment de l'équilibre des soucis pour la personne?
Ben oui. La réponse est oui. Alors, il faut voir ce qu'on entend par rapide. Hein. Il faut, mais je pense que ce que vous avez dans la tête, c'est prendre, je ne sais pas, on peut se donner un chiffre, prendre 20 kilos en un mois, par exemple. Par exemple. Ça, c'est sûr que ça va avoir un effet sur la motricité, qui n'est pas dû qu'à la proprioception, mais également aux commandes motrices. Alors, on est tous passés par là. Je ne veux pas dire on a tous pris 20 kilos. La crise de la puberté. Quand d'un seul coup, on fait 1m20 et puis à la rentrée des vacances, on fait 1m70 et qu'on devient un idiot moteur. Hein? On se cogne partout. Et bien, c'est tout simplement parce que la maturation du système, en l'occurrence osseux et musculaire, dépasse la vitesse d'adaptation, on revient un petit peu, du système nerveux. Et alors qu'il fallait une commande nerveuse qui faisait bouger mon bras à telle vitesse pour aller prendre quelque chose, ben si j'applique la même commande nerveuse sur un bras qui est plus grand, ça ne va pas être du tout la même chose. Donc le recalibrage, il est très important. Donc oui, si la vitesse de changement du corps dans son ensemble est trop importante, le système aura du mal à se recalibrer. Mais on se recalibre à tout. Hein. Il y a des... J'aime bien parler. Il y a des expérimentations avec des prismes visuels où on peut décaler la vision. C'est-à-dire que je vous regarde ici, mais en fait, je vois là-bas. Donc, on a tendance à avoir des effets sur la posture. On porte ces prismes une dizaine de minutes, on ne voit plus l'effet. C'est-à-dire que le cerveau s'est adapté à tout ça. Et si on les enlève, on va voir un after effect, un post-effet, mais il va être observable 5-10 minutes, puis le cerveau se recalibre. C'est vraiment un organe absolument... C'est pour ça que je parle de proprioception. Oui, il y a la partie périphérique, ces informations qui remontent, mais c'est encore une fois le système nerveux central qui décide de faire rentrer les informations dont il a besoin. Donc ce sont ces traitements-là qui sont extrêmement, extrêmement précis et qui sont d'ailleurs très intéressants à observer. Maintenant, on observe avec la dernière étudiante, là, on a commencé à faire des études en IRM fonctionnelles pour savoir où sont finalement les entrées corticales qui permettent la repondération.
Donc la repondération, c'est une compensation, on est d'accord?
Oui, voilà. C'est une adaptation à un environnement.
Voilà, à condition d'avoir toutes les capacités cognitives à ce moment-là.
À condition d'être câblé comme ça.
Mm-hmm,
pourquoi est-ce qu'on a ce tiers de personnes, chez les personnes saines, en bonne santé, qui n'arrivent pas à repondérer? On ne sait pas encore. Dans la littérature scientifique, on n'a encore pas d'informations là-dessus.
Justement, c'est une remarque par rapport à ces tiers de personnes qui, dans l'étude, sont des athlètes.
Oui.
Et donc, j'avais imaginé que les champions, les personnes sportives de haut niveau ont déjà une proprioception développée.
Oui.
Et puis, j'ai une petite question graphique. Sur une de vos diapositives, il y a un symbole dessiné qui représente la proprioception et j'aimerais savoir ce que c'est.
Ici.
Voilà, celui-là.
Oui. Oui, excusez-moi, je suis passé. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que les champions ont une meilleure proprioception que les autres? Ça, comment on appelle ça? J'allais dire, c'est plus une croyance. C'est une croyance. Hein. On a fait réaliser par des étudiants de master depuis plusieurs années, finalement, parce qu'ils se posent souvent la question. La question nous revient. Est-ce que comme je suis, c'est un petit peu avec votre question, comme je suis handballeur, que je fais beaucoup d'appui, etc., je suis bien ancré au sol, je vais avoir une meilleure proprioception de cheville qu'un nageur, par exemple, qui est dans le... Bon, ben, faites l'étude, allez-y. Puisque je suis... Et en fait, non, il n'y a pas de corrélation. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont plus de capacités proprioceptives que d'autres. Comme il y en a qui ont 10 sur 10 aux deux yeux. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Hein ? Il se trouve que sur les capacités de repondération, quand on regarde les chiffres, malgré tout, les jeunes sportives ici, elles ont un niveau d'utilisation des informations de cheville plus important que la moyenne générale que l'on a testée sur 200 personnes. Et c'est tout ce que je peux dire. Oui, mais ça c'est oui. Alors ça c'est justement faire coïncider les deux cadres, votre référentiel égocentré avec le référentiel exocentré. Ouais, ça c'est ça, le système nerveux central fait ça au moment de la programmation motrice. C'est autre chose. C'est une autre forme. Ici c'est simplement ça représentait les trois entrées sensorielles majoritaires du contrôle de la posture. Qu'on a vu sur le schéma d'après. Ça, c'est l'oreille interne. Oui, je sais. Excusez-moi. Alors, bon, ça, c'est bon pour tout le monde. Le pied. Et puis, non, l'œil. Et la proprioception, hein, qui est cet ensemble hein, d'informations qui rentrent. Voilà. Donc, c'est simplement dire que quand on en enlève une, eh bien, les autres sont majorés.
Une question, est-ce que quand on évoque la sensibilité au mal de mer,
ouais.
Alors je sais qu'il y a un problème d'oreille
ouais.
interne,
ouais.
mais est-ce que...
Alors, les sensibilités, ces malaises ici, finalement, sont dus à des défauts de cohérence sensorielle. Le système nerveux, finalement, il utilise la redondance sensorielle, comme on utilise la redondance motrice. Par exemple, le fait de taper, c'est signalé par la vision, c'est signalé par l'audition, c'est signalé également par la proprioception. Donc là, il y a une cohérence. Si jamais, parce qu'on fait des expérimentations comme ça, on met un casque au sujet et on décale simplement les retours auditifs, il y a un truc qui est gênant. Il n'y a plus de cohérence. Alors, le mal de mer, le mal en voiture, etc., ce sont des gens qui sont sensibles à ces incohérences. Si on est sensible en voiture, et vous le savez de tous, quand on lit, c'est simplement qu'on a une vision stabilisée, alors que les otolithes et la proprioception également dit qu'on est en mouvement. Et il y en a une des trois qui dit « Ah non, pas du tout, on bouge pas là ». De là vient ces sentiments, hein. Et donc ça se travaille. Hein. Vous savez que les... je reviens sur le haut niveau. Les marins qui font de la course au large, ils ne sont pas tous insensibles au mal de mer. Hein. Bien au contraire. Hein. Des marins de la marine nationale également. Donc c'est bien qu'il y a des gens, voilà, on est plus ou moins sensibles, mais on peut se désensibiliser à ce genre de choses. Alors, pour le vertige, alors moi je suis sensible au vertige. Donc, je ne me désensibilise pas, parce que ça me fait peur. Mais il a été un moment dans ma vie, mais j'étais plus jeune, où j'ai dû travailler sur des murs d'escalade et des choses comme ça. J'ai constaté qu'au bout d'un mois, j'avais beaucoup moins d'appréhension. Est-ce que j'étais désensibilisé ou pas, je ne sais pas. Mais je n'ai pas la réponse, donc je préfère pas vous le donner. Oui.
Bonjour. Bonjour. Je travaille dans l'accompagnement de personnes porteuses de troubles du spectre autistique.
Dans ce cadre, j'ai pu lire une petite partie d'une thèse consacrée à la proprioception des personnes autistes, avec ce qui a été relevé, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont plus défectueuses, et cela dès la naissance, avec des possibilités de travail autour de l'amélioration. Je rajoute à ça qu'il y a des hypo- et des hypersensorialités. Donc ma question, est-ce que vous avez des choses à nous transmettre là-dessus ? Et aussi sur quel professionnel pour aider à travailler ça. Merci.
Merci pour votre question. Alors, la réponse, je n'ai pas d'informations spécifiques sur ces publics particuliers. Comme je vous l'ai dit, on est un laboratoire où on travaille plutôt chez la personne saine, puisqu'on a un laboratoire universitaire hors santé, hein, mais je me renseignerai là-dessus. Donc je ne peux pas vous dire à quoi sont dus finalement ces... Vous avez parlé de défaillance. Ok. Eh bien, le sujet est intéressant, hein, mais je n'ai vraiment pas d'informations. Après, quels sont les spécialistes à aller voir pour la proprioception ou... C'est toujours difficile de spécifier que proprioception, parce que vous avez vu que tout est lié, finalement. Hein. La proprioception, c'est bien si on sait l'utiliser en lien avec les autres sens. Bon, il y a une profession que tout le monde connaît qui est formée en partie à cette rééducation, ce sont les kinésithérapeutes. Voilà. Bon. Les kinésithérapeutes qui, encore une fois, s'ils sont bien formés, s'ils s'intéressent aux choses, peuvent mettre en place des conditions, finalement, de restauration des fonctions sensorielles. Hein. On travaille, mais il faut les accompagner et il faut qu'ils travaillent à générer des nouvelles idées. Voilà. Parce que, je vous l'ai montré, travailler sur les entorses de cheville avec des dispositifs comme ça marche pas. On le sait, maintenant. Mais on sait ce qui marche. Il faut développer ces nouvelles conditions. Donc les kinés, et on en forme à l'université, des jeunes kinés qui viennent et qui écoutent justement ces informations. Moi, je suis pas kiné, moi, je ne sais pas quoi en faire, hein, d'un point de vue thérapeutique. Mais eux commencent à se les approprier. Donc voilà. Donc je suis assez confiant dans l'avenir. Et je pense que des kinés jeunes, bien formés au métier de la recherche également, à la méthode hypothético-déductive, là, à la mesure, c'est quelque chose qui va être intéressant. Après, il y a des médecins rééducateurs. Alors, peut-être le yoga, oui. Ben, finalement, tout ce que vous allez pouvoir faire en pleine conscience, voilà, prendre conscience de son corps, c'est déjà faire de la proprioception, bouger les yeux fermés, voilà, il y a toute une motricité à... Hein, mais... Une fois que vous avez compris ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un prof de yoga pour vous dire « Ok, je vais fermer les yeux, imaginez où sont mes bras. » Ben là, vous faites de la proprio.
Et il nous reste une poignée de minutes, même pas. Mais je prends une dernière question. Puis la réponse va se faire sous forme de conclusion, par exemple, avec un mot de la fin.
Ah bon. Et bonjour. Étant donné que la proprioception va diminuer avec l'âge, est-ce que... qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entretenir ou pour essayer de freiner un peu, si c'est possible. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà prévues.
Oui. Alors, merci. Je vous en prie. Alors, c'est possible. Là, la littérature est riche, hein, de programmes, finalement. Ce sont des programmes que vont faire les personnes âgées. Il n'y a pas que la proprioception. Hein. On va travailler sur l'ensemble des composantes de la motricité, donc... vous savez qu'avec l'âge, on perd également de la force, hein, c'est la sarcopénie. On va, biomécaniquement, il va avoir des modifications. Donc, il y a tout un tas de tests, d'environnement, de pratiques qui permettent finalement de maintenir une motricité, sécuritaire, puisque c'est ça ensuite, hein, qui va être le plus important, c'est de pouvoir marcher assez longtemps pour engager la fonction cardio-respiratoire. Puis ça va être également de marcher en sécurité et de pas tomber dès qu'il y a des feuilles. Donc, il n'y a pas. J'ai fait ce matin, si j'ai su pour les autistes, je serais allé voir, mais je fais ce matin une petite recherche bibliographique sur est-ce qu'il y a des programmes proprioceptifs spécifiques pour l'avancée en âge. Non, il y a des exercices de proprioception qui sont intégrés dans des programmes beaucoup plus complets. Alors, ce sont des kinés ou des associations. Par exemple, à Annecy, il y a une association qui fait ça, j'ai plus le nom. Mais il y a beaucoup d'associations qui font de l'activité physique adaptée, par exemple. Ça, ce sont des professionnels qui sont passés par des études soit de santé, soit des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives, et qui ont un bac plus 5 et qui adaptent la motricité à des publics particuliers. Donc voilà, si vous nous retrouvez, c'est très précis.
Nicolas Forestier, il est temps de vous remercier. Et on serait resté encore bien plus longtemps, mais voilà, nous sommes, le temps est imparti et est arrivé. Merci encore, je crois qu'on peut vous applaudir bien fort.
C'est gentil, merci.
Prochain rendez-vous entre midi et séance le 4 décembre. On sera certainement à la médiathèque puisqu'on sera à quelques jours de la réouverture de l'espace permanent. Et puis si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir l'expo Jour sur la nuit, ben, vous avez encore quelques mois. Mais voilà, il y a plein d'événements autour qui sont programmés. Merci à vous et puis à très bientôt.